La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes au collège Saint-François d'Assise à Aubenas avec les élèves de 4e 6. La console de la radio Info RC a été installée au CDI, ce qui va nous permettre de réaliser des interviews de professionnels afin de découvrir différents métiers.
À l'occasion de la semaine de la presse et des médias, nous accueillons deux professionnels des médias que nous allons interviewer. Il s'agit de Daphné Rousseau, qui est journaliste texte pour l'agence France Presse, et Nicolas Ferraud, qui est reporter d'images pour France 3 Régions. Bonjour à tous les deux, nous sommes ravis de vous rencontrer et que vous ayez accepté de répondre à nos questions. Au cours de l'interview, nous vous appellerons par vos prénoms si cela ne vous dérange pas. Tout d'abord, pouvez-vous chacun vous présenter ?
Alors, je suis Daphné Rousseau, j'ai 36 ans, je suis journaliste à l'agence France Presse, à l'AFP, depuis un peu plus de 12 ans. J'ai occupé plusieurs postes différents au sein de l'agence, principalement à l'étranger. J'ai été reporter de guerre pendant très longtemps et aujourd'hui, je suis journaliste plus sur des terrains plus faciles. Je suis journaliste mode et gastronomie à l'AFP.
Et bonjour, et moi je suis Nicolas Ferraud, donc j'ai 52 ans. Je travaille donc comme journaliste reporter d'image pour France 3 Rhône-Alpes depuis 15 ans au bureau d'Aubenas. Voilà, j'ai commencé par des télévisions locales en apprenant en fait le métier sur le terrain. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai été intégré ici au bureau d'Aubenas pour France 3 Rhône-Alpes.
Daphné, vous avez travaillé pour l'AFP. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette agence et quel est son rôle ?
Alors, l'agence France Presse est une des trois grandes agences de presse au monde, avec Reuters et Associated Press. C'est une agence dont le siège est en France, mais c'est une agence internationale qui travaille en 6 langues. J'ai 1200 collègues partout dans le monde qui sont de 120 nationalités. L'agence France Presse, c'est le grossiste de l'information. C'est le réseau qui permet de distribuer l'information aux autres médias qui ne peuvent pas être partout sur tous les terrains dans le monde. Par exemple, nous, on a des journalistes en Corée du Nord, en Syrie, à Gaza aujourd'hui. On a aussi des journalistes accrédités à l'Élysée. On a des journalistes qui couvrent l'économie dans plusieurs pays. Donc voilà, on est les premiers sur l'info et on redistribue ces informations qui sont vérifiées, rapides et fiables aux autres médias qui les utilisent quand eux ne peuvent pas l'avoir directement ou eux ne peuvent pas être sur le terrain. Voilà le rôle de l'agence France Presse qui travaille donc en texte, c'est comme moi, en vidéo, en photo et aussi avec d'autres services comme les infographies ou les réseaux sociaux.
Nicolas, vous travaillez pour France 3 Régions. Pouvez-vous nous apporter des informations sur cette chaîne de télévision ?
Alors oui, donc c'est un média régional, service public, hein, ça appartient au groupe France Télévisions. On est la plus grosse rédaction européenne, hein, je pense, me semble-t-il, 1500 journalistes. Tous les territoires sont couverts par un bureau dans tous les départements de France, y compris en Ardèche, donc pour le bureau d'Aubenas. C'est un média régional, on fonctionne avec... Dans nos reportages que l'on travaille, que l'on construit, on raisonne avec un prisme régional, c'est-à-dire qu'on doit intéresser nos téléspectateurs au niveau régional. Ici, pour Rhône-Alpes, c'est 5 départements, le Rhône, la Loire, la Drôme et l'Ardèche, et puis l'Ain.
Daphné, en quoi consiste votre métier ?
Alors c'est marrant que tu me poses la question aujourd'hui parce que la réponse que je vais te faire n'aurait pas du tout été la même il y a quelques mois. Aujourd'hui, je suis la responsable des sujets mode et gastronomie pour l'agence à Paris. Donc je couvre principalement tout ce qui touche au milieu de la mode, au fashion week, aux grands couturiers, aux tendances. Je m'occupe aussi de la gastronomie, des chefs, de ce qu'on mange, de l'actualité des grands restaurants. Donc je suis toute seule à ma rubrique, c'est énormément de travail. Il y a jusqu'en janvier 2023, j'étais reporter de guerre. Donc j'ai été reporter de guerre pendant la moitié de la décennie. J'ai principalement couvert la guerre en Ukraine pendant plusieurs années, l'Afghanistan, le Proche-Orient, les conflits entre Israël et Gaza. Donc je suis reporter texte, j'écris. Et voilà à peu près en quoi ressemble mon métier.
Et vous, Nicolas, en quoi consiste votre métier ?
Alors, moi, c'est très différent, du coup. Hein. C'est pas aussi risqué que Daphné, mais c'est... tous les jours, on raconte une histoire sur des événements qui ont lieu en Ardèche. Donc, on ne dépasse pas les frontières administratives de l'Ardèche. Mais tous les jours, il y a quelque chose à raconter dans tous les domaines de la vie, de la société. Ça peut être la politique, ça peut être la culture, ça peut être l'économie, l'agriculture. On est ce qu'on appelle un petit peu journaliste généraliste hein, aussi. Donc on s'intéresse un petit peu à tout type d'histoire. Ce qui nous intéresse, c'est de, voilà, d'essayer de déterminer un petit peu l'élément nouveau, ce qui peut apporter quelque chose de nouveau pour les téléspectateurs, ce qui peut être concernant, ce qui peut être intéressant. Voilà, donc on soumet un petit peu cette proposition en conférence de rédaction le matin à nos chefs donc qui se trouvent à Lyon. Et puis une fois que c'est validé, après on part sur le terrain. On part sur le terrain, donc voilà, et puis on rencontre les personnes, on les interviewe. Voilà, moi je fais toute la partie image et son. Et puis après on revient au bureau et on travaille tout ça pour mettre... Pour construire un reportage à peu près de 2 minutes et qui sera diffusé le soir dans le journal à 19h15. Voilà. Tous les jours, une histoire différente à raconter.
Daphné, depuis combien de temps exercez-vous le métier que vous faites ?
J'ai 36 ans et j'ai commencé l'école de journalisme à 21 ans. Donc ça va être mon 15e, ma 15e année de journalisme. Et j'ai commencé à gagner ma vie avec rapidement après l'école. Donc... je dirais depuis que j'ai 23 ans, je suis journaliste à temps complet. Voilà.
Et vous, Nicolas ?
Alors moi, j'ai eu un parcours un petit peu différent. À la base, j'ai commencé à faire une école de cinéma et puis j'ai travaillé dedans un petit peu pendant 2 ans, mais ça ne m'a pas vraiment plu. Et je sentais bien de toute façon que c'était plus la télévision et le journalisme qui m'intéressaient. Donc à partir du moment où j'ai mis le pied dedans, voilà, j'ai pas arrêté, ça fait maintenant 25 ans, donc j'ai commencé dans des télévisions locales, voilà, à faire un petit peu tous les métiers, hein. C'était rédacteur, reporter d'images, monteur également, voilà, en Clermont Première, Yvelines Première aussi, et puis après j'ai fait un petit peu même de LCI, M6, différentes télés, et puis je suis rentré dans le réseau France 3, voilà, comme CDD, pigiste. Et puis après, l'intégration ici au poste d'Aubenas, où ça fait maintenant 15 ans. Ça fait maintenant 25 ans donc, que je gagne ma vie comme reporter d'images. Et j'ai appris sur le terrain, en fait. J'ai appris le journalisme sur le terrain. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. C'est vrai que moi, je me souviens, quand j'ai commencé, on était plus de la moitié des journalistes détenteurs de la carte de presse qui n'avaient pas fait d'école de journalisme. Aujourd'hui, c'est plus possible. Hein. Aujourd'hui, vraiment, tous les jeunes qui commencent dans le métier ont une école de journalisme hein, reconnue par la profession. Mais dans mon cas, à l'époque, c'était encore possible. Donc voilà, je fais partie un peu des oiseaux rares à être passé comme ça.
C'est pas tout à fait impossible de devenir journaliste sans avoir fait une école de journalisme. Il y a toujours des gens qui viennent de parcours différents. Et en plus, on voit dans notre métier que ça enrichit beaucoup quand on a des candidats qui ont vécu autre chose. L'école de journalisme, c'est indispensable, mais ça formate aussi beaucoup les professionnels de notre secteur. Le vrai moment où ça va bloquer si vous décidez de vous lancer dans le journalisme sans faire d'école de journalisme, c'est pour les stages. La plupart des grands médias ne prennent pas de stagiaires qui ne sont pas en école de journalisme parce qu'ils ont tellement de demandes qu'en fait l'école de journalisme c'est juste une manière de trier les candidatures. Donc c'est surtout là que ça va bloquer depuis quelques années s'il n'y a pas de parcours dans une école de journalisme reconnue.
Daphné, qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier et est-ce que c'était une vocation ?
J'étais exactement à peu près dans le même dispositif que vous. J'avais 8 ans. On est allé avec... Bon, vous êtes un petit peu plus âgé. On est allé avec ma classe visiter une rédaction d'un journal qui s'appelle Mon Petit Quotidien. Peut-être que vous y étiez abonné quand vous étiez en primaire. Et c'était la première fois que j'étais confrontée à des journalistes. et ils nous ont laissé débattre pendant la journée. À l'époque, on avait tenu un débat, c'était en 97, je crois, sur le clonage humain, qui était un débat assez à la mode avec la brebis Dolly. Et j'avais voilà, donné mon avis, pu écrire un petit article. Et j'étais ressortie de cette journée presse-visite à l'école primaire en me disant que c'était quand même un très chouette métier. J'aimais beaucoup lire et écrire, j'aimais les histoires, j'aimais raconter. Je faisais partie de ces enfants qui avaient toujours une histoire dans la tête, qui aimaient qu'on leur en lise, qui en racontaient dans la cour de récré, qui étaient très curieuses aussi. Je crois vraiment qu'il n'y a pas un autre métier qui était fait pour moi aujourd'hui, je peux vraiment le dire, à part peut-être policier.
Et vous, Nicolas, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'exercer ce métier et est-ce une vocation ?
Je ne sais pas si c'est une vocation, je pense oui, mais c'est vrai que ça, moi ça se fait de manière plutôt empirique en fait. C'était un peu flou dans ma tête, mais je sais que j'ai été marqué quand même au collège et au lycée. On avait un principal de proviseur de collège-lycée qui nous réunissait, je pense, une fois par mois dans la chapelle de l'établissement, puisque c'était un établissement privé. Et il nous passait des documentaires, des reportages ou des documentaires qui m'ont marqué. J'ai encore des images dans la tête. C'était sur des faits de société, hein, la drogue, la prostitution, voilà. Et avec des images assez fortes, percutantes, et ça m'a marqué. Et puis après, je sais que, bon, j'ai aussi baigné dans un milieu familial où il y avait quand même une culture du cinéma. On parlait beaucoup cinéma, le cinéma italien, américain aussi. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, je me suis dirigé vers le cinéma. Mais c'est vrai que j'étais aussi certainement influencé par ma sœur qui, elle, a fait aussi une école de journalisme. Donc comme ça, petit à petit, de fil en aiguille, eh ben, je suis arrivé voilà, là où je suis. Mais ça s'est fait vraiment de manière empirique, moi, plutôt à l'âge des 22-24 ans. Voilà.
Daphné, travaillez-vous exclusivement pour l'AFP ou avez-vous d'autres réseaux ?
Bonne question. J'ai commencé par travailler pour énormément de médias parce que j'étais indépendante, pigiste, on appelle ça, ou freelance. Dans notre métier, on appelle ça pigiste. Je me suis installée à l'étranger, à Jérusalem, quand j'avais 21 ans. Pendant 3 ans, j'ai travaillé pour les principaux médias français. À l'époque, TF1, France 24, Radio France, Le Point, plusieurs quotidiens. Et ensuite, j'ai été titularisée, on appelle ça chez nous, donc recrutée principalement en CDI par l'AFP. Et depuis, je n'ai pas le droit de travailler pour d'autres médias. De temps en temps, je fais des collaborations avec des médias extérieurs, c'est très rare. Et surtout, je fais beaucoup d'éducation aux médias. Donc ce qu'on est en train de faire, voilà, bénévolement, je suis très très souvent dans des écoles primaires, des collèges et des lycées pour parler de mon métier.
Et vous, Nicolas, travaillez-vous exclusivement pour France 3 Région ?
Ben oui, exclusivement. Exclusivement, je ne sais pas si j'avais le temps de travailler pour d'autres médias, mais non, c'est 100% France 3 Région. Ouais.
Tu ne veux pas venir travailler à l'AFP un petit peu ?
Ben si, j'aimerais bien, mais non, c'est vrai qu'il n'y a que ce média-là, ouais, 100%.
Donc vous êtes tous les deux reporters tout terrain. Daphné, vous vous êtes rendue en Ukraine, dans la bande de Gaza suite à l'attaque du Hamas contre l'Israël. Est-ce que c'est vous qui choisissez vos sujets ou est-ce qu'ils vous sont totalement imposés ?
Alors, petite précision, après le 7 octobre, aucun média international n'a pu rentrer dans la bande de Gaza. Il y a une interdiction de toutes les autorités israéliennes, palestiniennes et égyptiennes qui contrôlent les frontières de laisser rentrer la presse. Donc non, j'ai pas pu me rendre dans la bande de Gaza, j'étais autour de la bande de Gaza. Ça, c'était pour la première précision. Et pour répondre à ta question sur est-ce que c'est moi qui choisis mes sujets ou est-ce que c'est moi qui choisis les terrains sur lesquels je me rends, oui, dans les deux cas... Avec l'AFP propose d'envoyer des journalistes en mission, en renfort, y compris sur les zones très risquées. On n'est jamais forcé de le faire. J'ai plusieurs fois dit non à certaines missions. Donc personne n'est jamais forcé de rien. C'est un peu l'actualité qui dictait les terrains où je me rendais en fonction d'un séisme, d'une guerre, d'un très gros attentat, d'une catastrophe naturelle, d'une élection. Voilà, c'est des émeutes, c'est le genre d'événement que j'ai couvert toute cette décennie. Quant au choix des sujets, c'est un peu la même chose. Hein, l'actualité dicte parfois... on ne va pas tourner autour du pot. Parfois, il n'y a qu'un sujet à faire parce que l'événement, c'est ça. Donc, on le couvre en priorité. Sinon, oui, j'ai une grande liberté pour proposer mon regard sur l'actualité tout en respectant des critères de neutralité qui sont très importants et dans le service public et à l'agence France Presse. C'est quasiment jamais arrivé qu'un sujet que je propose soit retoqué, et s'il est retoqué, c'est plutôt pour des raisons techniques, soit il a déjà été fait, soit il est trop compliqué à faire. En tout cas, ce n'est jamais pour des raisons, on va dire, politiques ou éditoriales.
Ok. Est-ce que vous avez un sujet que vous aimeriez découvrir ou non ?
Bah, je suis un peu en train de réaliser un rêve après avoir été reporter de guerre, ce qui était déjà mon rêve quand j'étais plus jeune. J'avais une petite lubie de couvrir un peu le monde plus glamour de la mode, des stars, du luxe et des choses belles et bonnes. Et je suis en train déjà de le faire, donc il va falloir que je me trouve rapidement un autre rêve de journaliste à réaliser. Peut-être devenir journaliste sportive, je ne sais pas. Je précise juste que vous vous demandez peut-être pourquoi autant de changements, que nous, à l'AFP, on a une obligation de changer de poste tous les 5 ans. Donc, on doit changer soit thématiquement, donc ce que j'ai fait, changer de thème, soit changer géographiquement, ce que j'ai fait dans le passé. J'étais au Proche-Orient, ensuite j'étais en Allemagne, par exemple. Soit changer de statut hiérarchique, donc d'être journaliste et de passer rédacteur en chef. Donc, de toute façon, tous les 5 ans, on a le droit d'essayer de poursuivre un nouveau rêve. Et c'est une particularité assez sympa de notre agence.
Est-ce que vous avez un sujet sur lequel vous avez travaillé qui vous a plus touché que les autres ?
Sans hésiter, c'est bien sûr les années où j'ai couvert, où j'ai été journaliste de guerre. Il n'y a aucun des terrains que j'ai conflit qui ne m'a pas touché professionnellement et personnellement. Je dirais que l'Ukraine et les 2 années passées à couvrir cette guerre ont particulièrement marqué ma carrière et ma vie personnelle. On a perdu des camarades en Ukraine, dont un qui était très proche de moi. C'est un événement qui a définitivement changé mon regard sur mon métier, qui m'a d'ailleurs fait arrêter le journalisme de guerre l'année dernière. Donc oui, il y a effectivement des terrains qui m'ont particulièrement touchée.
Pouvez-vous nous expliquer comment s'organise une mission ou un reportage avant de partir ?
Oui, bien sûr. Alors d'abord, on est formé pour être journaliste de guerre. Chez nous, à l'AFP, on a une formation obligatoire, sécuritaire, particulière, qu'on fait avec le GIGN, donc qui est le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, l'unité d'élite. Donc on a une petite formation un peu supplémentaire, on va dire, sur des questions de sécurité, de réflexes en terrain de conflit. On apprend à différencier les différents types de menaces, les armes, les bombardements autour de nous. On apprend les gestes de médecine de guerre, les premiers gestes qui sauvent. On apprend à négocier en cas de prise d'otage. On apprend à négocier à des checkpoints. On apprend à négocier avec des terroristes. On apprend à des techniques de survie en cas de bombardement, en cas d'éboulement, en cas de situation d'enfermement. On apprend à préparer son matériel, qui est très spécial quand on part en mission de guerre, parce qu'on ne sait jamais pour combien de temps on part, dans quelles conditions et à quels moyens on va avoir autour de nous. Ça va des moyens de transmission jusqu'à la nourriture ou l'eau potable. Donc on part très préparé. Une journée type sur le front, par exemple, bon, ça dépend extrêmement des fronts, mais l'Ukraine, on est en immersion pendant des jours, voire des semaines sur la ligne de front, donc on a très peu d'endroits sûrs pour se replier le soir ou la nuit. Les bombardements sont permanents, la menace est permanente, donc on vit pendant plusieurs semaines comme les civils et comme les soldats, on vit dans cette menace permanente d'être attaqué ou d'être tué. Ça influe beaucoup la manière dont on travaille. On peut passer très peu de temps vraiment exposé sur la ligne de front, parce que plus on passe de temps dessus, plus la menace est grande. Donc il faut apprendre à travailler très très vite, très efficacement. On passe aussi beaucoup de temps en voiture pour se rendre d'un point à l'autre. C'est très difficile de circuler dans une zone de guerre. Il y a beaucoup de checkpoints, il y a beaucoup de routes qui sont bloquées, beaucoup de routes qui sont effondrées, des ponts qui ne tiennent plus. Donc on passe beaucoup de temps à attendre et à comprendre comment se rendre d'un point à un autre. Moi, ma journée à peu près type en Ukraine, c'est lever à 5h, écrire entre 5h et 8h, pendant que le reste de l'équipe continue à se reposer, parce que j'ai la tête plutôt libre entre ces créneaux-là. Il y a aussi moins de bombardements aux petites heures du matin. À 8h, tout le monde se lève, on va se retrouver pour manger quelque chose avant de partir. On va préparer notre matériel, prendre des choses chaudes si on est en hiver. Ensuite, on va conduire à peu près 1 ou 2 heures jusqu'à la ligne de front. On va falloir régler les dernières accréditations, négocier des derniers accès avec l'armée. Ensuite, on va passer à peu près 2 ou 3 heures sur la ligne de front, soit avec les civils, soit avec les soldats, faire du reportage, raconter un hôpital, une école qui sert de lieu de rassemblement, être avec une certaine unité de drones de l'armée ukrainienne ou des canons ou l'infanterie. Voilà. Ensuite, à vers 14h, on va essayer déjà de quitter la zone de front pour pas trop s'y attarder, comme je vous ai dit. On va reconduire. Et ensuite, nos journalistes vidéo vont, comme on peut le faire sur n'importe quel autre terrain, dérocher les images, regarder ce qu'on a tourné, le photographe aussi. Moi, je vais commencer à réécouter les interviews, les faire traduire. conduire. Et puis on va essayer de discuter ensemble de ce qui s'est passé pendant la journée. On va essayer de voir comment chacun se sent, parce que c'est des terrains extrêmement stressants. Donc c'est important de parler, qu'on puisse dire comment on a ressenti les choses pendant la journée. On va choisir le sujet du lendemain. On va communiquer avec nos chefs à Paris pour leur dire que tout s'est bien passé. Et puis on va essayer de se coucher tôt, parce qu'il y a beaucoup de bombardements la nuit, donc on dort très très mal. Les vitres souvent de la maison peuvent bouger. Donc on essaie vraiment de dormir quand on peut, manger quand on peut, aller aux toilettes quand on peut. Voilà, c'est la règle d'or sur un terrain de guerre.
Est-ce que vous avez été traumatisée de vos années en tant que journaliste de guerre ou non ?
Je ne peux pas dire que c'est passé sur moi comme n'importe quel autre sujet. Comme je vous ai dit, c'est des années qui m'ont marquée, qui m'ont enlevé des amis. Il y a des deuils qui ont dû être faits. Ça a influé sur ma santé. Ça a influé aussi sur ma santé mentale. On ne revient pas pareil de ce genre de terrain, surtout quand on y passe autant d'années que moi j'y ai passé, aussi jeune aussi que l'âge que j'avais quand j'ai commencé à faire ce type de journalisme, puisque j'étais en début de vingtaine. Donc oui, il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Oui, il faut être très bien suivi quand on revient de ce genre de terrain. Ça change son rapport aux autres, ça change son rapport à sa famille, à ses amis, ça peut changer son rapport au risque. J'ai souvent remarqué que j'avais une habituation au risque qui est beaucoup plus forte que le reste de la moyenne. Je peux conduire différemment, percevoir les choses différemment que le reste des gens. Donc il faut vraiment se réhabituer à revivre dans un monde où il n'y a pas d'adrénaline, pas de menace. Et quand il y a une porte qui claque ou un avion qui passe dans le ciel, ce n'est pas forcément un commando qui rentre dans la pièce ou un bombardement qu'on va avoir sur soi. C'est tout un travail de réapprendre à vivre normalement après avoir vécu comme j'ai vécu.
Est-ce que malgré tout ça, vous regrettez vos années ou pas du tout ?
C'est une bonne question. Pour l'instant, non. J'ai l'impression d'avoir fait exactement ce pourquoi j'avais été amenée dans le journalisme. Je l'ai fait parce que je pouvais le faire, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, personne ne m'a forcé. Les histoires que j'ai pu raconter, la manière dont j'ai pu les raconter, c'est quelque chose dont je suis très fière. Ça a donné vraiment un sens à ma vie. Un vrai sens. C'est quelque chose qui est très, très supérieur à ce que je pouvais imaginer vivre un jour. Oui, ça va me hanter pour le reste de ma vie, certainement. Oui, ça va changer beaucoup de choses dans mon rapport au monde. L'idée, c'est aujourd'hui de transformer toute cette matière qui est très forte, très intense, le plus possible. Peut-être qu'on continue à écrire, transmettre aux étudiants, je suis prof aussi à la fac, transmettre aux élèves comme je suis en train de le faire, et de continuer à donner du sens à tout ça. Peut-être, oui, j'ai certains regrets. Peut-être qu'il y a des endroits où j'aurais moins fait de m'attarder, et peut-être qu'il y a des images où j'aurais mieux fait de baisser les yeux plus rapidement pour ne pas les avoir imprimés toute ma vie dans le cerveau. Et peut-être que j'aurais dû ralentir un peu sur le rythme à un moment où je retournais quand même très très souvent sur la ligne de front, et c'est très éprouvant physiquement et psychiquement.
Ok. Et avec tout ce que vous avez vécu, est-il facile de mener de front vie privée et vie professionnelle ?
C'est une question qu'on me pose très souvent. C'est extrêmement difficile. Dans mon cas, aujourd'hui, très clairement, je fais un rééquilibrage total du côté de la vie privée, et du côté de la vie tout court, c'est souvent ce que je dis. D'ailleurs, ma rubrique, elle s'appelle Lifestyle en anglais, donc on entend bien le mot life dedans, et c'est vraiment l'opposé de tout ce que j'ai vécu la dernière décennie. C'est très compliqué d'être reporter de guerre et d'avoir une vie privée organisée. On ne sait pas pour combien de temps on part, on peut partir à n'importe quel moment. Comme je vous l'ai dit, on revient un peu dans des états seconds, c'est très difficile de se réadapter, c'est très difficile d'être comprise par ses proches, ça peut générer énormément de conflits, énormément d'incompréhensions, c'est très difficile d'être maman et d'être reporter de guerre, c'est très clairement un choix qu'il faut opérer, pas pour toutes les femmes ou pour tous les hommes qui ont des enfants, mais beaucoup sont obligés d'opérer ce choix à un moment parce qu'on ne prend plus les mêmes risques quand on sait qu'on peut rendre son enfant orphelin, et j'ai énormément de respect pour en premier pour les femmes qui continuent à faire ce métier-là tout en poursuivant leur maternité.
Et quand vous ne partez pas en mission, que faites-vous ?
Bon, là, je ne pars plus en mission. Hein. Depuis novembre, je n'ai pas fait de mission. Et depuis janvier, j'ai changé de poste, donc je ne pars plus en mission, à part pour le Festival de Cannes, mais c'est moins dangereux. Quand je ne pars pas en mission, je me repose. Je faisais souvent 5 semaines sur le terrain, 3 semaines de repos. Déjà, il me faut une semaine pour réatterrir quand j'arrive. Il faut que je dorme. J'ai souvent dormi juste quelques heures pendant 5 semaines. Donc le corps, il a besoin de récupérer. J'ai besoin de manger aussi parce qu'on ne mange pas beaucoup. On est un peu stressé au niveau des questions de nourriture. Est-ce qu'on va en avoir ? Est-ce qu'on va en manquer ? Donc souvent, moi, j'ai très faim quand je rentre de mission. Mon corps est très crispé à cause des tensions et du stress. Donc en fait, on revient souvent tous, y compris nos caméramans, avec des maux physiques qui sont liés à la contraction des muscles. Donc il faut aussi faire des massages, décontracter, tout ça, faire de la rééducation. J'aime bien profiter, rien foutre, regarder Netflix, un peu comme tout le monde le week-end, sauf que ça dure 3 semaines. Voilà.
Nicolas, vous êtes basé au bureau d'Aubenas pour France 3 Région. Quel est le secteur que vous couvrez ?
Tout le département.
Pouvez-vous nous raconter une journée type ?
Oui, tout à fait. Alors, on arrive le matin. En général, il est 8h du matin au bureau. On a effectivement, on a entendu les journaux de France Bleu. On a lu la presse, le Dauphiné ou autre. On regarde un petit peu les mails. On épluche un petit peu les différentes sources d'informations. Et puis, à 8h30, commence la conférence de rédaction. Et là, on propose le sujet... qui est un sujet d'actu, voilà, qui est tombé soit dans la journée, soit qu'on a calé la veille ou l'avant-veille. On essaye toujours, c'est un peu un travail d'équilibriste, hein, de ne pas trop caler en amont pour toujours être un peu, comment dire, sur le qui-vive un petit peu de l'actualité, avoir toujours une oreille attentive à l'actualité. Et donc, voilà, on propose différentes pistes de sujets sur lesquels partir, ou un en particulier qu'on a vraiment envie de couvrir. Et puis voilà, une fois que c'est discuté en conférence de rédaction et que c'est validé, on part. On appelle les personnes, voilà, on les cale un petit peu, et puis on prend la route. On prend la route. Alors, on fait de la route aussi, hein, vu le département de l'Ardèche, comment il est configuré. Il y a pas mal de cols à franchir, de vallées à passer, et puis on retrouve les personnes sur les terrains, on fait les images, on fait les interviews. Et puis on revient au bureau. La journaliste rédactrice des Rushs choisit un petit peu les bouts d'interview à prendre. Et puis après, elle écrit son commentaire. Et on envoie tout ça à Lyon, où c'est assemblé, c'est monté par un monteur à Lyon, directement à Lyon. Et puis après, c'est validé par la rédaction en chef et diffusé pour 19h15 lors du journal. Voilà.
Et vous, choisissez-vous vos sujets ou vous sont-ils imposés ?
Non, c'est pareil, on choisit nos sujets, on est libre de choisir nos sujets. En général, à 95%, ils sont validés, parce que j'ai envie de dire qu'à France 3, c'est vraiment la proximité qui est un petit peu notre ADN. Hein. On connaît notre territoire, et donc on voit ce qui est intéressant de couvrir, ce qui est faisable. Avant tout, un sujet, c'est un sujet qui est faisable, diffusable et faisable dans la journée. Et donc, on propose nos sujets, et oui, 9 fois sur 10, c'est validé. Hein, donc on est libre de proposer ce qu'on a envie. Voilà.
Et est-ce difficile de trouver des sujets dans notre région ?
Non. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas, en Ardèche, on n'a pas forcément ce que l'on appelle de l'actu chaude, hein, c'est-à-dire voilà, ce qui s'impose un petit peu d'emblée. Une disparition, par exemple, suite à, je pense à celle-là, une disparition inquiétante suite à l'épisode Sevenol dernièrement qu'on a connu. Voilà, mais sinon, c'est des histoires un petit peu qui se racontent. Que l'on choisit, mais c'est incroyable de voir en fin de compte le nombre d'associations, de gens qui sont passionnés, qui militent pour telle ou telle chose, qui sont investis dans telle ou telle association, et c'est intéressant de raconter leur histoire. C'est incroyable. Donc même en Ardèche, où il n'y a pas forcément une actu chaude, comme on dit, il y a plein d'histoires à raconter, et parfois même c'est rare que l'on ait vraiment rien à proposer, et on a toujours le choix entre un ou deux sujets voilà, différents.
Quand vous partez sur le terrain, c'est avec une caméra à l'épaule. Partez-vous seul ou en équipe ?
Alors, on travaille toujours à deux à France 3. Toujours, voilà, on maintient cette exigence-là. Hein, un reportage s'est fait même à 3 personnes, hein, donc un rédacteur, un JRI et puis un monteur aussi. Ça permet un petit peu la diversité des regards. Parce que faire un reportage tout seul, hein, comme il existe dans les chaînes d'infos en continu, c'est quand même lourd, c'est quand même très lourd, hein, à supporter, surtout sur la durée. Et donc nous, on maintient un petit peu cette exigence de travailler toujours à deux sur le terrain. puisqu'on discute, on discute de l'angle à tenir, de voilà comment on aborde les choses. Des fois, c'est des petites choses, hein, des petites ficelles, des petites choses, mais qui permettent à deux de se sentir aussi un petit peu plus fort et de savoir comment des fois prendre un sujet. Donc on est toujours à deux, et puis la journaliste rédactrice va s'occuper plus du texte, hein, à savoir un petit peu comment elle va formuler un petit peu ses questions, l'angle à tenir, quelle est son histoire qu'elle raconte. Et moi, en tant que reporter d'image aussi, je fais un petit peu pareil, c'est ce même questionnement, hein, on s'intéresse, on recherche aussi sur internet le sujet pour recueillir un maximum d'informations. Mais moi, je vais plus aussi quand même les traduire par l'image, le son, quelle image je vais chercher à enregistrer, quel son, quelle ambiance aussi je vais essayer de capter pour que ça rentre bien dans le sujet. Voilà, toutes ces petites choses-là, et on est complémentaires.
Et comment s'organise un reportage ?
Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'on choisit, on en discute à deux d'abord, tiens, tel ou tel sujet, par exemple, là je pense mardi prochain on va faire l'anti-gaspillerie, c'est deux jeunes personnes dans la vallée du Rhône qui, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'ils avaient ça en tête, mais ils ont décidé de récupérer un petit peu tous les fruits usagés, déclassés, impropres à la consommation, pour les récupérer dans tel ou tel verger. Donc ils ont tout un réseau de producteurs, d'arboriculteurs, ils les récupèrent et après ils en font compote, jus, yaourt, des choses comme ça dans leur atelier de transformation. Donc plutôt que de perdre tous ces fruits-là qui ne servent pas, et ben ils en font des produits qui doivent être d'ailleurs très bons. Donc on va aller les voir, donc on en discute entre nous, ça nous intéresse bien sûr tous les deux, et puis on les contacte, on prend rendez-vous, voilà, on leur dit toujours un petit peu ce qui nous intéresse dans le sujet, voilà, pour que les choses soient bien claires, et puis après on prend date et on va les voir sur le terrain.
Lors de vos reportages, préparez-vous intégralement l'interview et laissez-vous de la place à l'improvisation ?
Oui, on essaye maintenant de travailler de plus en plus en séquence, c'est-à-dire que avant, j'ai l'impression que, parce que ça évolue très vite, on se pose toujours quand même la question de comment raconter les histoires. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on découpe de moins en moins les choses sur le terrain. On travaille de plus en plus en séquence. Après s'être salué, tac, le matériel est de plus en plus léger. Et donc on filme. Moi, je filme beaucoup, de plus en plus, en continu, comme ça, pour essayer de garder de plus en plus de spontanéité chez les gens. Moins de faire d'interviews officielles, alors voilà, vous vous mettez là, tac, comme ça, et puis on essaye de créer de moins de coupures et de prendre les personnes comme ça de manière de plus en plus spontanée. Donc ça fait beaucoup de rush, du coup, un peu plus. C'est un peu plus fatigant pour nous, mais c'est comme ça un petit peu, voilà. Et puis on peut utiliser même l'iPhone, on peut utiliser le boîtier maintenant, le boîtier photographique qui fonctionne. On va faire aussi, on va utiliser des drones dans nos départements ou avec les pays qui sont magnifiques en termes de paysage, hein, comme la Drôme et l'Ardèche par exemple. Bon, le drone fait aussi de plus en plus son entrée dans nos sujets. Donc voilà, la boîte à outils se développe, et je vois qu'on utilise aussi beaucoup, de plus en plus, des images issues des réseaux sociaux, on fait de plus en plus des infographies aussi, ce qu'on appelle des infographies, c'est des palettes qui sont faites par des techniciens à Lyon pour sortir tel ou tel chiffre.
Est-il facile ou difficile de mener un front de vie privée et une vie professionnelle ?
Alors, chez nous, c'est quand même beaucoup plus facile que quand on est correspondant de guerre comme Daphné. On a c'est vrai que, bon, France 3, on a une qualité de vie quand même bien plus facile. Ça n'empêche que je vois que c'est pas, c'est, chez les uns et chez les autres, c'est toujours quand même un petit peu compliqué d'allier les deux parce que, bon, même si nous, on a quand même des horaires de travail quand même assez régulières, assez fixes, hein, voilà, on commence à 8 heures et puis on termine à, voilà, en général à 18 heures, entre 18 heures et 19 heures. Faut quand même qu'on soit toujours tenu par l'actualité. L'actualité, elle se termine quand elle doit se terminer, et donc ça peut être le soir, on est en décalé, on travaille le week-end, on travaille beaucoup aussi, hein, donc ça prend une partie de notre vie quand même qui est important et qui est pas toujours. Mais bon, voilà, à France 3, on a quand même une qualité de vie par rapport à d'autres médias qui est quand même facilité, hein, voilà. Et donc on a des familles. Moi, par exemple, j'ai une femme et j'ai deux filles et j'arrive à mener de front les deux, voilà.
Et pour finir, Daphné, pouvez-vous nous raconter une anecdote ou un souvenir marquant?
Forcément, je vais encore vous emmener en Ukraine. On est dans une petite ville qui est très très proche de la ligne où sont les Russes. Donc on est côté ukrainien dans une région qui s'appelle le Donbass. C'est une ville qui est déjà totalement, qui est plus petite qu'Aubenas, je dirais à peu près la moitié. On est à côté de Lysychansk et elle est totalement évacuée, il ne reste plus personne. On entend dire qu'il y a un vieux monsieur qui a une maison avec un toit qui permet justement à notre caméraman, à notre JRI, de filmer tous les combats parce qu'on est en hauteur en fait. C'est une colline et déjà la maison est en hauteur. Donc on décide d'aller taper chez ce monsieur qui est un peu méfiant. Pourquoi il y a des gens qui veulent venir chez moi? Est-ce qu'on est des Russes infiltrés? Et puis finalement, il comprend qu'on est des étrangers, des journalistes étrangers. Il nous accueille alors qu'on est en pleine zone de guerre, comme si on était des anges. Il sort tout ce qu'il a dans sa cuisine. Et encore une fois, il n'y a pas de supermarché en zone de guerre. Chaque provision compte. Il nous donne tout ce qu'il peut. Il sort des boîtes de gâteaux, tout ce qu'il a. Il nous fait du thé vert, noir, du chocolat chaud, tout ce qu'on veut. On a l'impression nous-mêmes de retrouver la civilisation. Et puis il nous laisse aller sur son toit. Effectivement, là, on voit carrément les chars russes qui avancent mètre par mètre. Donc, c'est des images totalement exclusives pour le reste du monde qui vont être reprises sur CNN, sur BBC, partout dans les journaux de France 3. On a vraiment trouvé un point de vue très intéressant, inédit sur cette avancée russe. Tous les jours, on va aller voir Mykola, c'est le nom de ce monsieur. C'est un patriote ukrainien. Il a décidé de mettre un petit drapeau ukrainien sur son toit. Et puis, on voit bien dans notre caméra que les Russes se rapprochent tellement de mètre en mètre qu'ils sont en bas de la colline, quoi. Et nous-mêmes, on n'ose plus vraiment retourner dans le village. Les obus tombent tout le temps. On ne sait jamais si on ne va pas en prendre un sur la tête. Et puis, on lui dit d'enlever son drapeau ukrainien parce qu'on sent bien que ça va agacer les Russes et qu'on va être les premiers à se prendre un obus ou une roquette ou un grade sur la tête. Et puis, il dit non. Il dit qu'il mourra comme ça dans sa maison. Qu'il ne la quittera pas, que c'est tout ce qu'il a, que les nazis étaient déjà venus en 1945 dans cette même maison pour essayer de chasser sa grand-mère et qu'il n'en partira pas. Et puis le dernier jour où on va voir Mykola, je le supplie d'évacuer avec nous en voiture parce qu'il n'a aucune chance de survivre s'il reste dans sa maison. Les Russes vont l'éliminer tout de suite parce qu'il a un drapeau ukrainien chez lui. Et en plus, on a filmé depuis son toit, donc il n'est pas impossible que les Russes aient vu nos images qui circulent partout dans le monde, donc puissent très bien identifier où est la maison. Donc je porte la responsabilité de mettre en sécurité ce monsieur de 80 ans. Il refuse. J'ai une angoisse énorme de porter toute ma vie cette mort. Finalement, on a réussi à le convaincre de prendre la voiture avec nous et de rentrer à l'hôtel avec nous et d'être évacué. Aujourd'hui, il vit en Allemagne. Il a quitté le Donbass. Son village est occupé par les Russes et a priori, il ne retournera pas de sitôt dans sa maison ou ce qu'il en reste.
Et vous, Nicolas, avez-vous une anecdote ou un souvenir marquant à raconter ?
Alors j'en ai plusieurs, mais j'ai envie de dire c'est peut-être une des plus récentes. C'est il y a pas longtemps, il y a 2-3 mois à peu près, on s'est levé assez tôt ce matin-là pour aller couvrir le blocage. Il y a à Saint-Pierre-de-Colombier cette mobilisation qui concerne les écologistes contre la construction d'une basilique de la famille missionnaire Notre-Dame là à Saint-Pierre-de-Colombier. Et du coup on s'est levé tôt le matin et puis c'était un chantier qui avait repris son cours et du coup et qui était gardé par des sœurs voilà, de la famille missionnaire. Et les militants écologistes ont forcé un petit peu les grillages qui protégeaient le chantier. Et moi, j'ai filmé tout ça. Donc, on était en plein dans l'actu. Et à un moment donné, j'ai filmé une nonne qui plaque un militant écologiste. Voilà, on était au lendemain. On était au lendemain de la défaite de l'équipe de France au championnat du monde. Et cette séquence-là a fait un petit peu le tour du monde, hein, sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai senti, je cadrais, j'avais un œil, mon œil droit dans la visée et puis mon œil gauche dans le hors-champ, pour regarder comment tout se passait. Et j'ai senti effectivement que cette image-là, elle était percutante. Et c'est ça aussi qui est plaisant quand on est reporter d'images, c'est que des fois, quand on fait des sujets, enfin des images, on voit qu'il y a des... Ça peut être une interview simplement, mais quand l'image est claire, quand l'image est percutante, on le sent tout de suite. Et là, c'est aussi l'effet que ça m'a donné sur le plaquage de cette nonne d'un militant écologiste. Je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe et qui va être énorme. Effectivement, elle a fait des millions de vues après sur Internet. Et voilà, c'est un des exemples. J'en ai d'autres. Sinon, c'est d'avoir eu le privilège de filmer les animaux de la grotte Chauvet, de la vraie grotte Chauvet, par exemple, ou cette histoire aussi d'Éric Establi, un spéléologue, quand je suis arrivé en Ardèche, qui était coincé dans les gorges de l'Ardèche. Je venais d'arriver en Ardèche. Et puis, c'est une histoire qui a tenu en haleine pendant 10 jours tout le monde, tout le pays. Et on ne savait pas, voilà, on savait pas s'il était vivant ou mort. Et moi, en tant que JRI, il fallait, parce qu'on avait, en fait, on était sur de l'autre côté de la berge, de l'entrée de la grotte. On n'avait pas forcément accès à la grotte. Et il fallait construire des sujets tout en imaginant. Donc ça m'a demandé aussi de travailler sur mes images, de savoir comment raconter tout ça alors qu'on n'avait pas accès à grand chose. Voilà. Et puis l'histoire était passionnante aussi. Donc voilà.
Eh bien, Daphné Rousseau et Nicolas Ferraud, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairés sur vos métiers respectifs. Cette interview a été réalisée par Charlotte et Milana, puis à la technique Zayn, élève de 4e 6 du Collège Saint-François d'Assise d'Aubenas.
Merci à vous.
C'était
La Voix des Jeunes,
un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.